reprise des débats. Donc le titre de cette dernière session du jour, c'est « Une croissance impossible ». Alors une croissance impossible, Thierry Jacquot, qui est juste à ma droite, directeur de la revue L'Écologiste, que vous connaissez certainement. La croissance, en fait, ça fait un moment qu'elle suscite des critiques, et donc tu vas nous faire une histoire de la critique de la croissance.
Une petite histoire.
Une petite histoire. Des grandes critiques.
Alors un historique, c'est vrai qu'un historique de la notion de la critique de la croissance ou de la décroissance, ça, c'est vrai que ça paraît aussi a priori surprenant, parce que c'est une notion qui réémerge, qui émerge depuis peu de temps, depuis, on pourrait même dire, 2002, avec le colloque à l'UNESCO sur l'après-développement. Il y avait le numéro spécial de L'Écologiste à cette occasion-là, le numéro de Silence sur la décroissance, les casseurs de pub qui ont commencé aussi à traiter ce thème-là. Donc c'est vrai que depuis grosso modo un an ou deux, ce thème revient un peu à la surface, mais il revient justement. Et il y a déjà eu des critiques de la croissance et du développement depuis déjà un certain temps. Alors c'est ce que je voulais vous proposer, de revenir un petit peu à cette histoire de la critique, alors sans être exhaustif, bien entendu, ce serait un peu impressionniste. Donc je vais vous proposer en trois parties, une petite partie sur l'historique de la critique du développement en tant que tel, en revenant sur la distinction entre croissance et développement. Deuxième partie sur le débat du début des années 70 sur la croissance, qui est vraiment extrêmement intéressant par rapport au colloque d'aujourd'hui et toutes les questions que l'on peut se poser. Et puis une troisième partie sur quelques économistes, quelques grandes figures du XVIIIe siècle, où déjà il y a des notations qui peuvent être intéressantes pour notre réflexion. Voilà. Alors bien sûr, la notion critique de la croissance et du développement, ça remonte classiquement à la naissance même de ces notions. Ça, c'est la première chose que l'on peut dire. C'est chez les peuples premiers, ça n'a pas de sens du tout, bien entendu, que de critiquer la croissance et le développement, puisque tous les anthropologues, chez quelques peuples premiers que ce soit, d'aujourd'hui ou d'hier, tous les anthropologues notent que c'est la stabilité et la méfiance vis-à-vis du nouveau qui sont au centre de ces sociétés-là, la stabilité et la méfiance vis-à-vis du nouveau. Alors qu'aujourd'hui, bien entendu, dans notre société, c'est exactement le contraire. C'est la croissance et c'est le neuf qui sont mis en avant. Ça, c'est extrêmement intéressant de se pencher sur tous les travaux des anthropologues classiques sur ces questions-là. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais simplement en voyant des gens comme Marcel Mauss, Marshall Salins, Pierre Clast, Paul Henny, etc. Donc là, il y a eu beaucoup de travaux sur des sociétés qui sont tout à fait différentes des nôtres. Hein. Il ne s'agit pas d'y retourner, mais au moins de les étudier de façon à voir en quoi, pour mieux comprendre notre propre société, il faut essayer de s'en sortir, d'en sortir, de la regarder d'ailleurs. Et l'étude des sociétés traditionnelles peut permettre d'être dans cet ailleurs qui permet de mieux comprendre notre société. Voilà, donc ça c'est vraiment la première des choses. Alors quand on en arrive au développement, alors le développement, alors là je vous renvoie au grand livre de Gilbert Rist sur la question, qui fait l'historique de la notion de développement, une croyance occidentale. Alors il est très intéressant de voir que la notion de développement est assez historiquement datée, puisqu'elle remonte en 1949 au discours du président Truman sur l'état de la nation, le discours qui est fait chaque année par les présidents des États-Unis. Et donc, en 1949, Truman va lancer la définition classique du développement. Alors, je me propose de vous lire, c'est quand même extrêmement intéressant, ce que Truman dit à propos du développement. Voilà, donc c'était le 20 janvier 1949. Et donc, bon, Truman aborde différents points. Et dans son quatrième point, il en arrive à dire... Donc Truman parle. Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens du monde vivent dans des conditions voisines de la misère. Leur nourriture est insatisfaisante. Ils sont victimes de la maladie. Leur vie économique est primitive et stationnaire. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour eux que pour les régions les plus prospères. Pour la première fois de l'histoire, l'humanité détient les connaissances techniques et pratiques susceptibles de soulager la souffrance de ces gens. Et les États-Unis occupent parmi les nations une place prééminente quant au développement des techniques industrielles et scientifiques. Et donc, il se propose que, je crois que nous devrions mettre à disposition des peuples pacifiques les avantages de notre réserve de connaissances techniques afin de les aider à réaliser la vie meilleure à laquelle ils aspirent. Et en collaboration avec d'autres nations, nous devrions encourager l'investissement de capitaux dans les régions où le développement fait défaut. Il développe un peu ses idées généreuses. Et il conclut en disant que l'ancien impérialisme, l'exploitation au service du profit étranger, n'a rien à voir avec nos intentions. Alors ça, c'est très intéressant. Donc l'impérialisme n'a rien à voir avec nos intentions, rien à voir avec le développement. C'est intéressant quand on connaît la suite de l'histoire, parce que c'est un discours prononcé en 1949. Et c'est aussi intéressant quand on voit la façon dont Truman prononçait ce discours. On a retrouvé la photo du président en train de prononcer son discours. Bon, vous la trouverez dans l'écologiste sur ce numéro-là, je ne peux pas vous la montrer, mais je peux vous la décrire. On voit donc Truman en majesté devant l'aigle impériale américaine dire que le développement n'a rien à voir avec l'impérialisme. Donc ça, c'était en 1949, et c'est donc évidemment à partir de la mise en place de ce programme, qui prenait le relais du colonialisme finalement, que sont nés un grand nombre de critiques, un peu de tous bords, d'anthropologues, de sociologues, d'écologistes, etc., contre ce programme, qui était évidemment d'intention généreuse, mais dont l'application s'est révélée bien vite désastreuse pour les pays auxquels elle était appliquée. Voilà, alors l'exemple classique, c'est celui de François Partant, qui était banquier du développement, qui a fait du développement, entre guillemets, et qui s'est aperçu au bout d'un certain temps que ce qu'on appelait développement, finalement, c'était amener chez les autres notre propre modèle à nous, et de détruire les autres sociétés. Voilà, donc là, je ne vais pas beaucoup développer cette notion de critique du développement en tant que tel. Là, je donne simplement quelques touches et je vous renvoie donc au colloque de l'UNESCO, au numéro de l'écologiste, aux actes qui sont parus chez Parangon. Donc là, il y a tout un ensemble de documents qui montrent que la notion de développement elle-même a été contestée. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement de dire qu'il faut un autre développement, etc. Il s'agissait de respecter tout simplement autrui et sans vouloir, au nom du développement, lui imposer nos propres valeurs. Voilà. Donc le développement, ce qu'on peut voir, c'est un programme d'ensemble qui concerne tout. Et la croissance, là, comme le disait Truman, la croissance lui est consubstantielle au développement. On ne peut pas séparer l'un de l'autre, bien que théoriquement, alors là je fais tout de suite une petite précision théorique, développement et croissance ne sont pas en toute rigueur synonymes. Et un étudiant d'université devrait faire très attention à distinguer les deux, le développement étant l'aspect qualitatif et la croissance l'aspect quantitatif. Voilà, mais dans la réalité, les deux mots sont utilisés l'un pour l'autre, ils sont tout à fait synonymes en pratique. Donc ça, il y a une première critique qui s'est développée, donc alors avec les revues The Ecologist, par exemple, dans les années 70, l'association des amis de François Partant, l'association des amis de François Partant, etc., sur la notion de développement elle-même, et qui s'est matérialisé dans les années 70 par vraiment un grand débat tout à fait sur la scène publique, et non pas confiné à des revues universitaires ou alors à des travaux universitaires. Là, vraiment, dans les années 70, c'est apparu tout à fait sur la scène publique. C'est ce débat sur justement la croissance. Alors là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'on va voir que le débat est posé à cette époque-là en des termes qu'on peut reprendre quasiment mot pour mot aujourd'hui. Donc on verra ensuite ce qu'on peut tirer éventuellement comme réflexion de cet état de fait. Alors pour situer le débat dans les années 70, en 72 précisément, alors je rappelle qu'en 72 il s'est tenu la grande conférence à Stockholm en juin 72, la première conférence des Nations Unies sur l'état de la planète. Donc c'était une époque qui avait vécu tout le développement industriel de l'après-guerre, donc avec des atteintes extrêmement importantes à l'environnement et à la nature, et donc en 1972, il apparaît qu'il faut quand même faire quelque chose, et donc les Nations Unies convoquent cette conférence. Et le point clé, l'essentiel du débat, va porter justement sur la croissance, puisqu'il est bien évident que plus il y a de croissance, et plus les atteintes à l'environnement et à la nature sont importantes. Enfin, il est bien évident, au moins ça se discute. Mais alors, pour le président de la Commission européenne de l'époque, qui était d'abord vice-président, qui est devenu vice-président, Sigmund Scholz, ça a été pour lui un véritable déclic, et on verra comment il s'est impliqué dans la critique de la croissance, et jusqu'à proposer la décroissance. Voilà, donc, pourquoi est-ce que Sigmund Scholz, président de la Commission européenne, en est venu à une telle affirmation forte, et puis à un tel engagement? Eh bien, c'est suite à la parution de deux ouvrages en 1972 qui ont été des best-sellers et sur lesquels s'est appuyé le débat public. Donc, il y a le rapport du Club de Rome lui-même qui a été traduit en français sous le titre « Halte à la croissance » et le livre-programme de The Ecologist, coordonné par Teddy Goldsmith, donc « Changer ou disparaître, plan pour la survie ». Donc, c'est vraiment les deux livres qui disaient à peu près la même chose l'un et l'autre, qu'on ne peut pas continuer une croissance infinie sur une planète finie. Il le disait de manière différente. Alors, le rapport du Club de Rome, en fait, c'est un rapport au Club de Rome qui a été fait par des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, donc un institut tout à fait prestigieux américain scientifique, qui est vraiment, au-delà de tout soupçon d'activisme, si on peut dire. Or, qui, lui, était bâti sur des formules, des équations, des mathématiques, des statistiques, etc., et qui démontrait que la croissance économique avait une limite et que cette limite était presque atteinte, et que donc il fallait arrêter cette croissance économique. Le plan pour la survie de l'équipe de Teddy Goldsmith, qui avait été soutenu par plusieurs prix Nobel également, proposait une approche un peu plus politique ou un peu plus qualitative, et disait explicitement, donc ce plan pour la survie, en 1972, en se soumettant sans condition à l'objectif de l'expansion, la société dans laquelle nous vivons se condamne elle-même. Il lui faudra inévitablement arrêter sa croissance en l'espace d'une génération, donc ça n'avait pas été fait en l'espace d'une génération, à moins qu'au prix de sacrifices incalculables pour le reste de l'humanité, ceux qui sont actuellement les maîtres du monde ne réussissent à se donner un sursis. Donc là, on est bien dans le sursis. Donc il y avait des solutions proposées par le plan pour la survie, qui étaient, on peut résumer par une phrase, donc de citation, « Créer une société viable à long terme et qui assure à chacun le plus de satisfaction possible. Par définition, une telle société ne peut se fonder que sur la stabilité et non sur l'expansion. » Voilà, donc c'est la lecture de ces documents, à la fois les documents du Club de Rome, qui étaient, comme je vous l'ai dit, très, très techniques, très scientifiques, très mathématiques, très modélisables. On avait mis toutes les données dans un ordinateur, il en était ressorti des chiffres, des courbes, etc. Et donc ça avait un aspect de sérieux très fort. Et puis le plan pour la survie, changer ou disparaître, de Teddy Goldsmith, c'était plus qualitatif, mais l'un et l'autre se renforçaient. Et donc ça a frappé l'opinion publique, alors d'autant plus que Sico Mansholt, à la lecture de ces documents, fait une lettre, il était alors vice-président de la Commission européenne, il fait une lettre au président de la Commission européenne en lui disant qu'il fallait réfléchir pour arrêter la croissance au niveau de l'Europe. Et en fait, la polémique est partie grâce au Parti communiste français, mené par Georges Marchais à l'époque, pour qui, évidemment, pour un parti très productiviste, l'arrêt de la croissance était tout simplement impossible. Et donc c'est lui qui a contribué à lancer la polémique et à la mettre au premier plan de l'actualité. Alors, pour aller un peu plus loin dans les convictions Sico Mansholt, alors je dis tout de suite que Sico Mansholt, bien sûr, là, je vais le citer plusieurs fois sur des déclarations extrêmement intéressantes, en tant que vice-président puis président de la Commission européenne, hein, ce qui est quand même pas rien. À l'époque, la Commission européenne était moins forte qu'aujourd'hui, mais néanmoins, c'était un homme politique de premier plan. Bon, néanmoins, Sico Mansholt a été celui qui a mis en place un plan de l'agriculture qui a fait disparaître, qui est responsable de la disparition d'une bonne partie de la paysannerie au niveau européen. Donc, c'est évidemment pas une approbation de toutes les idées de Sico Mansholt, hein, mais c'est celle de la fin de sa vie et celle sur la croissance et la décroissance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir, bon, il s'est répandu un peu partout à l'époque, hein, parce que, comme je vous disais, c'était un débat public, vraiment sur la scène publique, hein, sur les grandes télévisions, les grands médias, hein, et partout. Donc, si on prend un exemple, il y a un bon exemple dans le Nouvel Observateur, où il est interviewé par José Talia, sur 16 pages. Alors déjà, je vous présente d'emblée, quand on a le Nouvel Observateur de l'époque entre les mains, bon, il y a de quoi tomber par terre, parce que moi, naïvement, étant à peine né à l'époque, je vois le Nouvel Obs d'aujourd'hui, qui est café publicité, et je me disais qu'à l'époque, il y en avait certainement moins. Et cette interview de Sico Mansholt, qui porte sur la décroissance quand même, sur la critique de la croissance, etc., sur 16 pages, il n'y a en fait que 3 pages de texte de Sico Mansholt. Le reste, c'est de la publicité. Donc c'est vraiment affolant, vous avez une colonne de texte d'interview de Sico Mansholt par-ci, par-là, et c'est bourré de publicité partout ailleurs. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir sur le fond et la forme. On voit bien que le fond, c'était de dire arrêtons la consommation, la croissance, ça tout va, noyé dans un déluge de publicité qui disait qu'il n'avait un seul message, finalement, c'est consommer, consommer n'importe quoi, mais consommer. Donc ça, c'est le fond et la forme, le contraste est tellement fort que je voulais vous en faire part. Alors, si on revient sur le fond de ce que dit Sico Mansholt, alors José Talia lui pose une question très claire. On a même dit que vous étiez pour la croissance zéro. Ce à quoi Sico Mansholt répond, j'ai été très mal compris sur ce point. En fait, les hommes politiques qui m'ont attaqué n'ont probablement pas lu le rapport du Massachusetts Institute of Technology, le rapport au Club de Rome. Ils ne peuvent concevoir une forme de société différente de celle que nous connaissons et qui est tout entière basée sur une croissance continue. Or, la question, maintenant, n'est plus là. Il dit ça en 1972. La question est, étant donné les limites qui nous sont imposées à long terme pour la production d'énergie, de nourriture, de fer, de zinc, de cuivre, d'eau, etc., est-il possible de maintenir le taux de croissance sans modifier profondément la société ? En étudiant lucidement le problème, on voit bien que la réponse est non, que la croissance infinie n'est pas possible. Alors, dit Sico Mansholt, il ne s'agit même plus de croissance zéro, mais d'une croissance en dessous de zéro. Disons-le carrément, il faut réduire notre croissance économique pour y substituer la notion d'une autre culture, du bonheur, du bien-être. Bon, là, on est tout à fait dans la problématique de ce colloque, des 2 jours de ce colloque. Et c'est très intéressant de constater, donc, qu'un éminent responsable, à l'époque, avait déjà posé le problème. Alors, donc ça, c'était en 1972, c'était à l'occasion du sommet, c'était juste avant le sommet des Nations Unies dont je vous ai parlé sur l'environnement humain. Donc le débat se poursuit, alors notamment avec le Nouvel Observateur qui continue et qui fait une conférence, salle comble à Paris, avec une conférence sur le thème du zégisme. Alors ça, c'est un mot qui a été inventé au début de l'année 1972 et qui n'a survécu, disons, que 6 mois. Mais c'était très intéressant de voir pourquoi ce mot a été inventé. Il vient du terme anglais « zero growth », donc croissance zéro, et donc les partisans de la croissance zéro, zero growth, avaient été dénommés par les journalistes et qui avaient eu besoin d'un mot, parce que ça montrait à quel point le débat était allé loin. Donc les partisans de la croissance zéro étaient appelés les zégistes, et le courant, le zégisme. Voilà. Et donc le Nouvel Obs fait une conférence en juin, donc à l'époque du sommet de Stockholm, sur le zégisme. Alors qui est-ce qu'il y avait à cette grande conférence, hein, qui devait être semblable à celle d'aujourd'hui? Eh bien, il y avait Sico Manchel, donc président de la Commission européenne, il y avait Herbert Marcuse, donc le philosophe bien connu pour l'homme unidimensionnel, il y avait Edmond Maire, qui était secrétaire général de la CFDT, il y avait Michel Bosquet, bon, qui est pseudonyme d'André Gortz, qui était journaliste au Nouvel Observateur, il y avait Teddy Goldsmith, donc qui avait fondé The Ecologist 2 ans plus tôt, il y avait Philippe Saint-Marc et Edgar Morin. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, le débat sur la croissance, il impliquait vraiment non seulement des activistes, entre guillemets, comme aujourd'hui et demain, donc c'est comme les 2 jours de ce colloque, mais aussi des personnalités politiques de premier plan. Voilà. Alors, Raymond Barre, alors après, c'est très intéressant de voir les réactions à l'époque, parce qu'elles sont très semblables à celles qui ont lieu aujourd'hui. Raymond Barre, à l'époque, n'était évidemment pas d'accord sur l'arrêt de la croissance, donc lui, il disait un argument tout à fait classique, c'est pas la croissance elle-même qui est en cause, mais c'est le contenu de la croissance, il faut avoir une bonne croissance et non pas une mauvaise croissance. Bon, là, ça n'allait quand même pas loin dans le débat. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir la réaction de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. À l'époque, il était ministre de l'économie et des finances. Et bien obligé de se prononcer sur la question de la croissance. Et donc, il publie un article dans lequel, explicitement, il dit qu'il refuse d'être un objecteur de croissance. C'est une bonne formule, quand même. Mais, quand même, il envisage qu'à terme de 10 ou 20 ans, donc il dit ça en 1972, il envisage que la croissance soit reléguée au deuxième ou au troisième rang des préoccupations. Et il dit explicitement, texto, noir sur blanc, la montée culturelle dans notre société prendra le relais de la croissance économique. Alors c'est intéressant de voir ce que Giscard d'Estaing écrivait en 1972, dans la mesure où aujourd'hui il est toujours en activité, il est président de la Convention européenne là, qui établit une convention, et donc ce serait bon de lui rappeler effectivement ses propos il y a une trentaine d'années, comme quoi la croissance économique au bout d'un moment devait passer à l'arrière-plan et laisser le qualitatif au premier plan. Alors lui-même, il avait organisé en tant que ministre de l'économie des rencontres à l'UNESCO en juin 1972, toujours sur le thème de la croissance, ou de la décroissance, l'arrêt de la croissance, etc. Donc et le président du club de Rome avait eu une formule très forte lors de ce colloque à l'UNESCO, en disant que la croissance était un multiplicateur des inconvénients. Ce qui est une formule que je pense qu'on peut tout à fait réutiliser aujourd'hui. Voilà, alors il est très utile aussi de signaler que sur TF1, il y avait aussi eu une émission télévisée avec le vice-président du CNPF, Sico Manchel, au mois de juillet, toujours sur ce thème de l'arrêt de la croissance. Et puis, bien sûr, alors dans cette polémique dans les années 72, faut pas oublier, alors là, je vous cite les personnalités dont on ne s'attend pas à ce qu'elles prennent parti ou à ce qu'elles s'engagent sur le thème de la croissance. Et bien sûr, il y avait les écologistes. Alors, dans les premières publications écologistes, La Gueule Ouverte, bien sûr, dont les premiers numéros portent évidemment sur ce thème-là, avec toute une tribune de Teddy Goldsmith dans le premier numéro contre le développement, et c'était vraiment très clair. Le Nouvel Observateur fonde le Sauvage, dirigé par Alain Hervé, qui va aussi porter ces thèmes de la critique du développement et de la croissance. Et puis Sico Manchot lui-même récidive dans des livres, où il dit, pour nous, je cite Sico Manchot toujours, « Pour nous, dans le monde industriel, diminuer le niveau matériel de notre vie devient une nécessité. » Ça, c'est en 1974. « Ce qui ne signifie pas une croissance zéro, mais une croissance négative. L'incitation à la croissance n'est en fin de compte qu'un objectif politique immédiat servant les intérêts des minorités dominantes. » Voilà. Et puis ensuite, donc en 1974, il y a la campagne de René Dumont, le premier candidat écologiste à une élection présidentielle, voilà, et sur lequel le programme insistait fortement sur la croissance indéfinie est impossible. Et le candidat René Dumont, bon, il à l'époque, jusqu'à sa mort, je dirais, un des thèmes importants pour lui, c'était la stabilisation au minimum ou même la décroissance de la population. Ça, c'était vraiment un des thèmes qu'il considérait comme une priorité et sur lequel il est revenu très souvent. Voilà, donc ça, c'était le débat en 1972, qui s'est un peu continué après, mais vraiment là où il a eu une importance extrêmement forte, c'était en 1972. Il a eu aussi un épilogue, je dirais, en 1973, avec un message sur l'énergie du président Nixon au Congrès américain, le 18 avril 1973. Alors, je vous lis juste un extrait qui est assez significatif de ce message du président Nixon, vraiment dans le débat complet sur l'arrêt de la croissance. Hein. Donc Nixon dit, aujourd'hui, en 1973, avec un nombre d'habitants qui représente 6% de la population mondiale, nous, donc Américains, habitants des États-Unis, consommons presque un tiers de toute l'énergie utilisée dans le monde. En 1973, nos besoins en énergie se sont accrus si rapidement qu'ils dépassent maintenant les quantités dont nous disposons. C'est très clair. Dans les années qui viennent, nous devons envisager la possibilité de pénurie occasionnelle d'énergie. Et il conclut en disant, si la tendance actuelle se poursuit, nous pourrions avoir à faire face à une véritable crise de l'énergie. Voilà. Donc, il y a eu tout un débat qui a été lancé à cette époque-là, et dont on peut être vraiment heureux qu'il reprenne aujourd'hui, ces deux jours et ces derniers temps. Alors, dans une dernière partie, je voulais simplement aborder quelques figures, et principalement deux, d'économistes ou de grandes figures du 18e, donc au début de la théorisation de l'économie, sur cette affaire de croissance ou de stabilité. Alors, c'est sûr que quand on parle de décroissance, bon, il y a immédiatement à l'esprit, en général, le Club de Rome, dont je viens de vous parler, tout le débat qui a eu lieu autour. Et, en général aussi, on pense quasi immédiatement à Malthus, puisque Malthus, son nom reste encore aujourd'hui extrêmement connu, même si ses épais pavés le sont peut-être un peu moins lus. Et donc, tout le monde connaît la thèse de Malthus, hein, c'était pour lui la population s'accroissait de façon géométrique, alors que les ressources alimentaires ne pouvaient progresser que sur un rythme arithmétique. Donc il y avait d'un côté une croissance exponentielle de la population et de l'autre une croissance linéaire des ressources alimentaires, et donc ça ne pouvait pas coller, et il fallait faire quelque chose. Donc l'accroissement de la population n'était pas possible à l'infini. Alors là, il est intéressant de noter, il est même essentiel de se rappeler, que ça c'était la première partie de la thèse de Malthus, mais malheureusement il en avait une deuxième, beaucoup moins agréable, c'est le minimum qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il avait des positions, il disait clairement, explicitement, qu'il fallait éliminer les pauvres. Alors je vous lis un passage de Malthus, pas piquer des vers. Si un homme ne peut obtenir de ses parents les subsistances qu'il peut justifier à leur demander, si la société n'a pas besoin de son travail, cet homme n'a aucun droit de réclamer la moindre part de nourriture, et en réalité, il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n'y a point de couvert vacant pour lui. Alors évidemment, avec des positions pareilles, vous comprenez, c'est pas la première partie de sa thèse qui a été discutée, mais c'est immédiatement la deuxième qui a fait un scandale énorme et qui a complètement occulté le débat essentiel qui était celui de la croissance de la population. Alors, quelqu'un comme Alfred Sauvy, qui est un nataliste s'il en est, un partisan de la croissance s'il en est, néanmoins, Alfred Sauvy a quand même dit que si le premier malthusien avait été socialiste plutôt que ultra égoïste de classe comme Malthus l'était, ça aurait changé évidemment la phase du débat. Mais donc une des premières figures au XVIIIe qui pose le débat sur l'accroissement de la population avait de telles thèses inacceptables que ça a complètement occulté le débat. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est bien évident que quand on parle de Malthus, c'est le deuxième aspect qui arrive à la surface. Alors d'ailleurs, au passage, on peut remarquer que Platon et Aristote déjà avaient des remarques sur la population. Ils étaient pour une stabilité de la population, mais avec des méthodes qui étaient tout aussi inacceptables. Voilà, donc ça, c'est sur le Malthus. Donc on ne peut pas éviter de parler de Malthus quand on parle de décroissance. Donc il vaut mieux savoir que sur une partie, sa thèse est évidemment défendable, mais que sur l'autre, c'est évidemment scandaleux. Et alors la deuxième personnalité du 18e, bon, après, il y a eu tout un débat autour de Malthus, certains l'ont suivi ou pas, mais c'est moins intéressant de suivre ça. Ce qui est important de voir, c'est Stuart Mill, donc, qui est aussi une des principales figures, hein, quand on fait le panthéon des économistes à l'époque, hein, Stuart Mill est évidemment dedans. Et donc, Stuart Mill, lui, théorise l'état stationnaire. Donc, ça, c'est intéressant, au 18e déjà, pour Stuart Mill, c'est pas nécessaire de croître à l'infini. Alors, je vous ai extrait certaines précisions de Stuart Mill, qui est tout à fait explicite. Donc il dit, je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaire. Et je ne suis pas d'accord non plus avec ceux qui croient que cette mêlée où l'on se foule aux pieds soit la destinée la plus désirable pour l'humanité, au lieu d'être simplement une des phases désagréables du progrès industriel. Donc pour lui, la croissance, c'est une phase désagréable du progrès industriel qui aboutit ensuite à un état stationnaire. Il dit aussi le meilleur état pour la nature humaine est celui dans lequel personne n'est riche et personne n'aspire à devenir plus riche. Ça, c'est aussi une phrase qui, quand on l'applique, ne correspond pas du tout à la société dans laquelle on est. Et il dit aussi que les pays les plus riches et les plus prospères arriveraient bientôt à l'état stationnaire Oula, mais j'ai bientôt fini, ça va. Arrivera bientôt à l'état stationnaire. Si la technique cessait de faire des progrès et si les capitaux cessaient de déborder de ces pays dans les autres parties de la Terre. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un économiste qui déjà à l'époque, Stuart Mill, donc théorisait l'état stationnaire et ne prévoyait pas une croissance infinie. Alors ça tombe bien parce que j'arrive à la conclusion. Alors, la conclusion, en forme de conclusion, on peut s'interroger sur l'été noir qui a complètement arrêté le débat sur la croissance qui s'est déroulé dans les années 70. Pourquoi finalement ce débat qui avait commencé ne s'est pas poursuivi, et bien que, heureusement, il redémarre aujourd'hui. Mais pourquoi quand même, pendant 30 ans, c'est quand même long, 30 ans, il ne s'est, alors je dirais, au niveau visible, parce qu'il y a encore des associations, etc., des revues écologistes qui ont maintenu, le fil, mais ça n'a plus fait l'objet de débats publics au premier plan. Alors, il y a de multiples raisons, bien sûr, j'en prendrai qu'une seule, me semble-t-il, qui est interne au mouvement écologiste ou contestataire en général, qui est devenu de plus en plus raisonnable, et de moins en moins exigeant, au passage. Alors, comme Stockholm, je vous disais, l'intitulé exact du sommet des Nations Unies de Stockholm, c'était l'environnement humain. Donc ça, c'était un intitulé parfaitement clair que tout un chacun pouvait comprendre. En 1992, à Rio, c'était environnement et développement. Donc déjà, on mettait deux notions différentes. Et puis, alors, Johannesburg avec le développement durable. Alors là, c'était le pompon, puisque bien sûr, avec le développement durable, il devient absolument impossible de parler de décroissance. Si vous parlez uniquement de développement, comment voulez-vous intellectuellement même supposer l'état stationnaire ou la décroissance? Ce n'est même plus possible. Donc le concept de développement durable, et là on peut conclure avec Gurgis Kourogan, que le développement durable est bien un concept déplunuisible, comme disait Gurgis Kourogan, puisqu'il nous empêche même de penser à cette nécessaire décroissance. Donc en conclusion, je dirais qu'il est, me semble essentiel pour le mouvement écologiste d'abandonner le développement durable, la notion de développement durable aux multinationales, qui s'en occupent très bien, et de défendre la notion de décroissance soutenable, comme nous le faisons dans ce colloque pendant ces deux jours.
Alors, il y a plusieurs réponses. Est-ce qu'on pourrait... Voilà.
Le micro.
Est-ce qu'on pourrait peut-être... Non, on n'est pas sûr. Vous vous présentez? Vous vous présentez, s'il vous plaît?
Et qui est très mauvaise d'ailleurs.
Il n'y a pas de choix.